Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Il est 18h au temps universel. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je suis Salimata Dao, les titres. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali affiche un optimisme raisonnable avant l'ouverture du deuxième volet des négociations d'Alger. Il a rencontré hier les groupes armés à Ouagadougou et les a appelés à oser la paix. À la veille de la reprise des pourparlers intermaliens à Alger, l'Association des imams et érudits du Mali avec le Haut Conseil islamique a organisé hier des séances de prière. Le président du Haut Conseil islamique a bon espoir que le Mali retrouve enfin une paix durable. Le retour des services de l'État dans le Nord va se poursuivre partout. C'est l'engagement du Premier ministre à Tombouctou où il a inauguré les travaux de rénovation du palais de justice. La médecine traditionnelle, une chance pour le continent. L'Afrique a célébré aujourd'hui la 12e édition de la Journée africaine de médecine traditionnelle. Deux diplomates algériens enlevés en avril 2012 par un groupe islamiste armé au Mali ont été libérés aujourd'hui. C'est ce qu'ont annoncé les autorités algériennes en confirmant pour la première fois l'exécution d'un troisième diplomate par les ravisseurs. Le ministère des Affaires étrangères n'a donné aucune précision sur les circonstances de la libération des diplomates Mourad Guessas et Kedour Mouloudi. Il a assuré que l'Algérie n'avait versé aucune rançon aux ravisseurs en échange de cette libération. Une délégation de la MINUSMA conduite par Bert Koenders a rencontré les différents mouvements armés qui ont signé un accord pour parler d'une seule voix au gouvernement malien le 1er septembre à Alger. Le représentant spécial est venu constater les avancées dans le rapprochement entre groupes armés et les chances d'application des décisions prises à Ouagadougou. Les explications avec Issa Fakaba Sissoko.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali a affiché un optimisme raisonnable avant l'ouverture du deuxième volet des négociations d'Alger. On a une feuille de route, une déclaration de cessation des hostilités, une volonté très claire du gouvernement malien de négocier et un protocole d'entente entre les mouvements armés d'agir ensemble, a-t-il indiqué. Pour lui, la signature de ce protocole d'accord entre les différents mouvements est un bon signe. Il y voit une réelle volonté d'avancer et d'oser pour la paix. Lors de sa rencontre avec les groupements armés, Bert Koenders a reconnu que le processus d'Alger est complexe, mais il a souligné la volonté de chaque partie d'aller vers un règlement pacifique du conflit. M. Koenders a noté que les dernières avancées indiquent que les discussions ne tournent plus en rond. À ce stade, précise-t-il, il faut que chaque partie respecte ses engagements. De leur côté, les mouvements armés ont demandé aux Nations Unies l'impartialité de leur médiation. Selon leurs représentants, il faut que les parties soient traitées avec équité pour garantir la sérénité des discussions. Ils ont également insisté sur la nécessité aujourd'hui d'aller vite, car pour eux, le temps perdu profite aux terroristes.
Difficile d'avoir la réaction du gouvernement face à cette deuxième phase des négociations d'Alger. Par ailleurs, le ministre malien de la Communication, que nous avons joint ce matin, dément les informations sur le fait que le président Ibeka ait récusé la médiation burkinabé. À 48 heures de la reprise des pourparlers intermaliens à Alger, l'Association des imams et érudits du Mali, en collaboration avec le Haut Conseil islamique, a organisé hier des séances de prière. Objectif : invoquer une issue heureuse des négociations. Pour le président du Haut Conseil islamique, il y a de l'espoir pour que le Mali retrouve enfin une paix durable. Il a été joint par Sékou Gadjigo.
L'idée, c'est vraiment implorer Allah le Tout-Puissant afin que les pourparlers qui vont être entamés le lundi entre les enfants de ce pays-là puissent vraiment aboutir et que Dieu nous accorde une paix durable. Et ensuite, que Dieu épargne notre pays vraiment de ce grand fléau qui existe aujourd'hui dans la sous-région qui est cette maladie Ebola. Et ensuite, que vraiment l'hivernage finisse dans de bonnes conditions afin de permettre vraiment à notre pays de vivre une vie meilleure. Je suis très optimiste, rien ne m'empêche m'empêche d'être optimiste. Je sais qu'il y a eu des problèmes à un moment donné, mais les Maliens sont capables vraiment de trouver des ressources en eux pour pouvoir vraiment dépasser ce cap. Je suis très optimiste et je pense que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, nous allons vraiment dépasser ce cap. Je pense aujourd'hui il n'y a pas de choix alternatif. Le seul choix qui veille, c'est la paix. Donc on est condamné vraiment à trouver des solutions pour vraiment instaurer une paix durable.
Pour réagir à nos informations, rendez-vous sur la page Facebook de Studio Tamani. L'installation des services de l'État dans les régions nord se poursuivra partout. Le Premier ministre Moussa Mara a fixé cet objectif lors de l'inauguration du palais de justice de Tombouctou. Le bâtiment qui s'était dégradé suite à la crise de 2012 a été rénové et équipé grâce à un financement du PNUD. Pour le Premier ministre, le palais de justice va aussi permettre à la population d'avoir un accès équitable à la justice. Moussa Mara est au micro de notre correspondant à Luseini Eladj.
2013 jusqu'en mars 2014, l'État a mis 11 milliards de francs CFA dans la construction de bâtiments publics. Les directions régionales, les gouvernorats, les préfectures, les sous-préfectures, les structures de justice, les structures techniques. Et l'État est en train d'engager 24 milliards pour poursuivre ces efforts. Aujourd'hui, ce qu'on est venu inaugurer, c'est un effort du PNUD, la coopération néerlandaise, et un message très fort de l'État à l'endroit de nos compatriotes du Nord. Faire comprendre, puisque l'action de restauration de l'État, l'action de redressement de l'État, l'action d'installation des structures de l'État partout sur le territoire se poursuivra. C'est quelque chose qui consolidera aussi les processus de pourparlers qui vont commencer dans leur seconde phase bientôt. Les deux iront de pair pour que progressivement les Maliens, dans un cadre de sérénité, de paix et de confiance, puissent établir les conditions d'un renouveau pour notre pays, d'un renouveau pour les relations entre les citoyens et la justice et d'un renouveau pour les relations entre les citoyens et l'État.
Le Mali, comme les autres pays du continent, a célébré aujourd'hui la 12e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle. Cette journée permet de poser la question de la collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle. Les tradis praticiens demandent aux autorités sanitaires de prendre la médecine traditionnelle comme un atout. Professeur Oki Asanogo, chef de service des sciences pharmaceutiques du département médecine traditionnelle de l'INRSP, au micro de Mouhamad Touri.
Malgré les avancées de la médecine conventionnelle, elle reste une médecine qui n'est pas très accessible à la majorité des populations africaines. Et la médecine traditionnelle reste le premier recours. Et donc, si on veut une meilleure santé de nos populations, il est important que nous collaborions dans un cadre d'information, de sensibilisation et de communication. Ils vont communiquer avec le premier niveau de l'organisation de la médecine conventionnelle, qui est la santé communautaire, qui sont les SESCOM. Et que la médecine traditionnelle accepte de référer, d'envoyer les malades là où on peut trouver la solution. Donc, de ce point de vue, moi j'ai un appel à lancer aux autorités sanitaires, aux praticiens de la médecine conventionnelle, de prendre la médecine traditionnelle comme un atout, comme une valeur, qu'il y a des ressources, des aspects positifs dans cette médecine qu'il faut valoriser et qu'il faut intégrer, qu'il faut utiliser pour le bien-être de nos patients.
Célébration aujourd'hui également de la Journée nationale pour les maternités sans risque. Cette 10e édition était placée sous le thème du paludisme et de la grossesse. Une rencontre a eu lieu ce matin au CICB. Selon le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Ibrahim Sossé Fall, les risques que fait peser le paludisme pendant la grossesse représentent un problème de santé publique majeur. Il est au micro de Barké Sissé.
La mortalité maternelle et infantile demeure un défi difficile à relever à quelques mois de la date butoir des objectifs du millénaire pour le développement. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié en mai 2014, environ 800 femmes meurent chaque jour dans le monde, paient des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. En 2013, 289 000 femmes sont décédées pendant ou après la grossesse ou l'accouchement. La majeure partie de ces décès évitables se produit dans les pays à faible revenu. C'est pour cette raison que l'amélioration de la santé maternelle est l'un des 8 objectifs du millénaire pour le développement. L'infection paludisme pendant la grossesse représente un problème de santé publique majeur. La femme enceinte est particulièrement vulnérable. La grossesse affaiblit son immunité.
Sur les 9 milliards de francs CFA investis dans des projets jeunes, seulement 4% ont été remboursés par les bénéficiaires. Cette situation pose le problème de la pérennisation du Fonds national emploi jeunes. L'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui a initié ce projet, a lancé des procédures judiciaires pour recouvrer ces fonds alloués à certains jeunes depuis des années. Amadou Cissé, directeur général de l'APEJ, joint au téléphone par Sira Bachili.
Il y a trois types de remboursement. Un, les projets déclassés. C'est-à-dire que ça, c'est des jeunes qui n'ont pas du tout remboursé. À échéance avec la banque, pendant 6 mois, ils n'ont fait aucun mouvement de remboursement. Il y a aussi la ligne des projets en cours de remboursement, c'est-à-dire des projets sains. Il y a aussi les projets financés dont le remboursement n'a pas encore commencé pour le système de différé. L'ensemble de ces trois lignes constitue à peu près 9 milliards pendant 10 ans. Le taux de remboursement global des dossiers déclassés est de 4% sur à peu près 4 milliards. Les actions d'ordre administratif et d'ordre juridique qui sont en train d'être prises, qui tous nous est donné par tous les moyens de droit possibles d'aller vers le recouvrement de ces fonds.
Nous allons à présent en première région où ONU Femmes souhaite une plus grande implication du genre dans les projets de développement. Plus d'une trentaine de personnes prennent part à une formation sur la prise en compte du genre dans l'élaboration des projets. Les participantes viennent des organisations féminines, étatiques et privées. Financées par l'ambassade de Belgique, la rencontre va durer 5 jours. Toujours à Caille, 200 arbustes ont été plantés ce matin par le Conseil communal de la jeunesse. Cette initiative appelée JM Caille, Je plante un arbre, vise à reverdir la ville. Les jeunes s'engagent aussi à créer des pépinières pour produire plus de plants pour la ville. Voilà, c'est la fin de cette édition présentée par Salimata Dao, mise en onde Nouroum Djiré. Pour plus d'infos, connectez-vous sur www.sidiotamani.org. Merci et à tout de suite pour le magazine.